Maman pleure. On a mis papa au coin. C'est ma faute. Je ne veux pas aller en prison. Maman est partie. Est-ce que papa et maman vont revenir? Je n'invente qu'à moitié. Un jour, à la fin 2014, nous étions au chaud dans un café après une promenade dans un petit marché de Noël. Jessica s'est souvenue à voix haute. Mon père donnait des claques à ma mère. Ma mère pleurait. On ne pouvait pas l'aider, sinon ça aurait été pour nous. D'autres mots d'enfant qu'un avocat m'a rapportés. Dans une petite ville, un homme a tué sa femme à coups de couteau devant leur fillette de 3 ans et 18 mois. Il les avait laissés seuls avec le corps pour aller se forger un alibi, avant d'appeler la gendarmerie, fort inquiet, à propos d'un cambriolage qui aurait mal tourné à son domicile. Entre-temps, la fillette de 3 ans, fâchée que sa mère ne bouge plus, se couche sur elle, la tire, la secoue, puis ne sachant plus quoi faire, sort dans la rue tout ensanglantée, marche 200 mètres et tombe sur une passante qui, horrifiée, prévient la gendarmerie. Recueillie, la fillette explique que « papa a mis du rouge sur maman ». Combien de fois Laetitia a-t-elle senti le vide autour d'elle, sous elle, en elle? Dire de sa vie qu'elle est un champ de ruines serait inexact, car pour avoir des ruines, il faut d'abord construire quelque chose. Or, Laetitia n'a rien pu construire. On l'en a systématiquement empêchée. Les bébés aiment renverser les cubes multicolores qu'on empile devant eux. Dans le cas de Laetitia, ce sont les adultes qui détruisaient la petite tour. Chaque fois, ils s'ingéniaient à faire table rase. À la fin, il n'y avait toujours rien debout, et Laetitia a abandonné. Bébé, elle a perdu du poids, restreint son attention, dormi de plus en plus. Elle s'est retirée du non-sens où elle ne trouvait aucune place. Petite fille, elle est restée timide, inhibée, impressionnable, dissociée d'elle-même, spectatrice de la violence et des actes de maltraitance qu'on lui infligeait. Elle a été d'autant plus oubliée dans son coin qu'elle ne réclamait rien. On l'a d'autant moins consolée qu'elle semblait passive, absente à sa propre vie. Toutes ces choses inexplicables, les cris, les coups, les larmes, les changements, l'indifférence, ont fait naître en elle ces axiomes monstrueux, ces vérités nichées au plus profond de son être, jusqu'à devenir la substance même dont elle était faite. Papa a raison. Papa a raison. Sinon, il tape. Papa a toujours raison. Sinon, il tue maman. Les hommes ont toujours raison. Sinon, ils nous tuent. Pour les jumelles, l'idée s'est imposée que, quand elles crient de douleur ou pleurent de détresse, maman ne fait qu'obéir à sa nature. Tous ces traumatismes ont, pour ainsi dire, préparé le terrain. C'est en ce sens qu'on peut parler de destin, de vie programmée pour la violence et la soumission. Aujourd'hui, Jessica a toujours peur de son père. À l'époque, pourtant, c'est elle qui protégeait sa sœur. Certains spécialistes affirment que les jumeaux vivent dans une fusion gemellaire jusqu'à l'âge de 2 ans. Entre 2 et 6 ans, ils entrent dans une phase de complémentarité qui se traduit par un développement tout en opposition. L'un est calme quand l'autre est nerveux, l'un est bavard quand l'autre se tait, l'un domine l'autre, etc. À l'âge scolaire et pendant l'adolescence, les jumeaux s'autonomisent, même s'il arrive que l'éducation ou des circonstances particulières prolongent la phase de fusion jusqu'à l'âge adulte. Dans tous les cas, un co-jumeau est le compagnon d'une vie. On s'aime, on s'agace, on se connaît par cœur. Ce couple survit aux rencontres amoureuses. Qu'est-ce qu'un conjoint face à un jumeau? Dans Olivier, Jérôme Gartin s'adresse au petit garçon renversé par une voiture à l'âge de 6 ans. Survivre à son frère jumeau est une imposture, pourquoi moi et pas toi? Dans un article du Nouvel Observateur de février 2015, consacré à des jumeaux malades de la mucoviscidose, l'un des deux expliquait « Il y a tant de choses que je ne peux pas imaginer sans lui. Même un simple anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire, mais le nôtre. Ce jour sans lui, ce serait comme célébrer une moitié de vie. » Quand Laetitia et Jessica étaient petites, elles se ressemblaient tellement que les gens les confondaient. Elles avaient le don de faire la même chose exactement au même moment, bâiller, par exemple. Inséparables, elles se chamaillaient. Franck Perret en témoigne. C'était « ma sœur m'énerve » et ensuite « ma sœur, elle est où ?» En grandissant, chacune a développé son caractère propre. Ce processus de différenciation complémentaire a été fichu.